privilégié quand on fait la prédication, parce que du coup, on a les deux messages en même temps bien en tête, en fait. On a ce qui a été dit à la présentation et on sait ce que nous, on va dire. Et quand ça colle comme ça, bah, bien sûr, ça fait du bien. Alors, voilà, de toute façon, le message était là, hein. Je ne pouvais pas vous prêcher autre chose, mais quelque part, la plus grosse crainte qu'on ait en venant ici, c'est de dire, mince, je vais dire quelque chose qui vient de moi. Et je veux à tout prix que ça vienne du Seigneur, en fait. Je ne veux pas faire de mélange. Et donc ça, c'est la grosse crainte qu'on a. Et voilà, des fois, le Seigneur, il se permet de nous rassurer. Il me rassure et en même temps, ça veut dire que son message, il est relativement clair pour nous. Et donc, qu'il faut écouter et il faut prendre attention. Je ne dis pas ça juste parce que c'est moi qui suis là, hein. Mais voilà, il y a quelque chose qui vient du Seigneur. Et alors, si j'y pense, je dirais, vous avez vu, Pascal, il a déjà, bon, en fait, Pascal, il a déjà tout dit, hein, presque. Mais voilà, vous verrez, il y a plein de points communs. C'est vraiment rassurant de voir que le Seigneur, il nous parle, en fait. Alors, ça a porté sur un verset. Donc, j'ai pas voulu mettre de titre parce que sinon vous allez déjà réfléchir à ce que ça peut vouloir dire. Donc le titre je le donnerai à la fin. Et le verset, bah il va pas vous inspirer, je pense, comme il m'a pas inspiré. En fait, ce que je disais à Maïs ce matin, elle me dit « Ah, mais tu prêches sur quoi ?» Je me dis « Donc, vous avez un abonnement, vous ?» Hier, c'est pareil, ils m'ont demandé sur quoi je voulais prêcher. Je dis « Ça se dit pas avant. » Je dis « Bah, je veux bien te donner le verset. » Alors, c'est juste deux versions différentes, légèrement différentes, hein, mais voilà. Le verset, c'est 1 Rois, chapitre 13, verset 1. « Voici, un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. » Donc ça, c'était la version seconde. La version Martin, elle dit « avec la parole de l'Éternel ». En fait, il y a toute une série de variantes dans les traductions, hein. Un homme de Dieu vient de Juda à Bethel pour annoncer la parole de l'Éternel ou sur ordre de l'Éternel. Et alors que Jéroboam se tenait devant l'autel pour offrir des parfums, pour faire fumer de l'encens, pour offrir le sacrifice. Voilà, c'est globalement l'idée est la même, hein, mais ça permet de bien ancrer dans nos têtes. Alors, que le Seigneur, il va-tu prêcher sur ça ? Que je dise quoi ? Donc voilà, on ne sait pas. Et en fait, donc, je vais vous emmener dans la réflexion que j'ai eue sur ce passage-là, et vous allez voir que l'idée, elle est finalement relativement claire. Alors, de une, quand on ne sait pas où aller, on dit qui on a, où est-ce qu'on est, et qu'est-ce qu'on fait. Voilà, ben, on va le faire ensemble. Donc, ça parlait, je reprends juste le verset, « Un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel. » Alors, l'homme de Dieu, ben, du coup, voilà, c'est fait, hein, c'est un homme de Dieu, j'en sais pas plus. Mais il vient pendant que Jéroboam se tient devant l'autel pour y faire brûler des parfums ou y offrir un sacrifice. Donc Jéroboam, qui c'est ? Alors normalement, Paul y en a parlé récemment, donc on doit pas être trop perdu là-dessus. Donc Jéroboam, c'est le roi d'Israël. Alors, roi d'Israël, pas en totalité. Ça normalement, c'est pareil, c'est une histoire qu'on a déjà dit très très souvent ici. Mais quand Salomon est mort, c'est son fils Roboam qui était censé prendre le pouvoir. Et vous savez qu'il a assez mal géré la situation. On lui a dit « Ah, Salomon était dur avec nous, faut nous lâcher un peu de lest, un peu de liberté. » Donc il a été voir des anciens qui ont dit « T'as raison, ils ont raison, faut aller un peu plus doucement. » Il a été voir ses copains qui ont dit « Serre un coup la vis, tu vas voir, montre-leur qui c'est le chef. » Bon, voilà. Ça a planté parce qu'il a écouté ses copains. Et du coup, enfin ses copains, ses conseillers, hein, ou bah, ses ministres. Mais voilà, il a écouté ceux qui l'aimaient finalement, et ça lui a valu de perdre la quasi-totalité du royaume en fait. Ils sont restés avec lui, Juda et Benjamin, et les 10 autres tribus sont éloignées, et elles ont pris un autre roi qui est ce fameux Jéroboam dont on va parler maintenant. Ça, tout ça, ça avait été annoncé d'avance par Dieu, c'était pas une surprise, d'accord ? Il a fait que accomplir ce que Dieu avait annoncé. Alors, j'ai des longs versets, comme d'habitude, mais j'aime bien avoir tout le contexte. Donc ça, c'est 1 roi, versets 9 à 13. « L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu deux fois. Il y avait à cet égard défendu d'aller auprès d'autres dieux. Mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, « Puisque tu as agi de la sorte, que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi et je le donnerai à ton serviteur. Seulement, je ne le ferai point pendant ta vie à cause de David, ton père. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume. Je laisserai une tribu à ton fils à cause de David, mon serviteur, et à cause de Jérusalem que j'ai choisi. » Donc on a l'impression que Dieu, finalement, il lui donne deux tribus, hein, une pour David et une pour Jérusalem. Et en tout cas, voilà, c'était annoncé d'avance. Et on voit en 1 Roi 11, qui est donc les versets juste après ça, en fait. Je n'ai pas repris tout le passage, mais que Dieu va susciter des ennemis à Salomon. Donc au verset 14, on voit l'Éternel suscita un ennemi à Salomon, Hadad, l'Édomite, de la race royale d'Édom. Il y en a un autre après, en 1 Roi 11, verset 23. Et celui qui nous intéresse, c'est celui-là ici, 1 Roi 11, verset 26. Jéroboam aussi, serviteur de Salomon, leva la main contre le roi. Il était fils de Nébat, éphratien de Tséréda, et il avait pour mère une veuve nommée Tseruya. Donc, je reprends la prophétie qui était faite à Salomon, c'est « Je déchirerai le royaume de dessus toi, je le donnerai à ton serviteur. » Vous voyez que même dans les détails, en fait, hein, Jéroboam, c'était un serviteur de Salomon. Et un jour, il a levé la main contre le roi, et il a dû s'enfuir en Égypte. Et donc, voilà, on a là, finalement, le contexte de pourquoi est-ce que Jéroboam est arrivé au pouvoir. Alors, on va essayer de retenir tout ça. Et vous allez voir qu'à la fin, on va revenir sur tout ça, en fait. Alors, cette histoire, elle se passe où? On a dit tout à l'heure, un homme de Dieu arrive de Juda à Bethel. Donc, Bethel. Qu'est-ce que c'est, Bethel? Bon, c'est une ville dont on entend parler, hein. Pour certains, on peut même dire c'est la maison de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Et la première mention de cette ville, en fait, elle ne se retrouve pas dans ce passage-là, elle se retrouve en Genèse 12. Genèse 12, c'est Abraham qui passe la nuit, qui construit un hôtel. Et on n'en sait pas beaucoup plus, en fait, à ce moment-là. Par contre, il y a un des descendants d'Abraham qui s'appelle Jacob, qui, lui, va y passer plus de temps, hein, et qui va y vivre plusieurs histoires. Donc, c'est Jacob qui donne le nom à la ville, visiblement. Elle s'appelait Luz avant, il l'appelle Bethel. Et ça veut dire « maison de Dieu », pourquoi ? Parce qu'il a dormi là quand il fuyait sa famille pour aller changer, de retourner dans sa belle famille finalement. Hein. Et il dort là et il fait le rêve d'une échelle qu'il y a entre cet endroit-là et le ciel, des anges qui montent, qui descendent, et au-dessus de l'échelle, Dieu. Et donc il dit, oh, mais moi je ne le savais pas, je me suis endormi ici, c'était la maison de Dieu. Et c'est pour ça qu'il l'appelle comme ça. Alors ça, c'est ce qu'on lit dans Genèse chapitre 28. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, donc ça te parle de l'échelle, hein, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, et je te garderai partout où tu iras. Ça fait penser à ce qu'on vient d'entendre de Manu juste avant. Hein. Et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit, que ce lieu est redoutable, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, et il la dressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Donc pour résumer, Dieu il promet à Jacob de lui donner le pays, à lui et à sa descendance. En fait, il lui rappelle les promesses qui ont déjà été faites à Abraham. Et il dit qu'au travers de sa descendance, il sera une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Dieu lui promet à Jacob d'être avec lui et de jamais l'abandonner. Alors, qu'est-ce qui se passe encore à Bethel? Alors, il va se passer quelques épisodes, mais en fait, le plus important pour moi, c'était celui-là. C'était l'épisode où Jacob, il voit cette échelle en rêve et il constate que c'est la maison de Dieu. Donc, plus tard, pendant la période des juges, les Israélites vont s'y réunir plusieurs fois, en fait. On a l'impression qu'ils vont se servir de cet endroit comme d'un lieu de rassemblement pour toutes les tribus. Quand il va y avoir des problèmes avec la tribu de Benjamin, ils vont se rassembler là et tenir conseil entre eux. Et on voit que Samuel, lui, il y passait régulièrement. Alors là, je l'ai affiché, hein, Samuel 7, versets 15 à 16. Samuel fut juge en Israël pendant toute sa vie. Il allait chaque année faire le tour de Bethel, de Gilgal et de Mitzpah. Et il jugeait Israël dans tous ces lieux. Et dernier élément sur Bethel, avant d'arriver à notre passage. Il y avait aussi une fête de l'Éternel à Bethel. Ça, c'est ce qu'on lit dans Juges 21, verset 19. Et ils dirent, voici, il y a chaque année une fête de l'Éternel à Silo. Alors, ce n'est pas Bethel exactement, mais c'est juste au-dessus, qui est au nord de Bethel, à l'orient de la route qui monte de Bethel à Sichem et au midi de Lébona. Alors, si vous... J'aurais dû afficher une carte, mais je l'ai zappé de le mettre dans le diaporama. Quand vous voyez Jérusalem sur une carte, c'est quand même à peu près au milieu du pays, globalement. Bethel, c'est 20 km au-dessus, à tout casser. Et après, on remonte encore Silo, qui est peut-être 10 km au-dessus. Et on se retrouve après au-dessus à Samarie, qui est encore quelques dizaines de kilomètres au-dessus. Si je ne me trompe pas, il y a 50-60 bornes entre Jérusalem et Samarie, et donc toutes les villes entre les deux. Donc il y a une ligne droite qui part de Jérusalem et qui arrive à Samarie et qui passe par Bethel. Donc vous voyez que quand on voit cette histoire de Bethel, on se rend compte qu'il s'est passé quelque chose de fort finalement, Dieu qui s'y est révélé, ça s'appelle la maison de Dieu pour une bonne raison, et après, ben, on a quand même l'impression que c'est devenu un lieu de pèlerinage, un lieu, voilà, ça a gardé une certaine religiosité, on y faisait des fêtes, on y rendait le jugement, mais quand on arrive dans notre passage à nous, eh ben, ça a encore dérivé un peu plus loin en fait. Et c'est pour ça que j'ai cité tout ça. Donc qu'est-ce qui fait Jéroboam à Bethel? On remet les morceaux ensemble. Maintenant, on a vu Jérôme, on a vu Bethel, on va regrouper les deux. Donc pour comprendre ça, il faut aussi prendre le passage qui est avant 1 roi 11. Je pars un peu autour, hein, mais voilà. Dans le passage avant, ça dit que Jéroboam, il a eu peur. Il a eu peur de quoi? Bah, que les gens ils finissent par se dire, mince, le temple, il est à Jérusalem. Il faut aller à Jérusalem, et qu'ils finissent par tous partir à Jérusalem, qu'ils se retrouvent roi d'un royaume où il n'y avait plus rien dedans. Et donc, il consulte lui aussi, ses copains, ses ministres, sa famille, et après s'être consulté, 1 roi 12, verset 28, le roi fit deux veaux d'or, et il dit au peuple, « Assez longtemps vous êtes monté à Jérusalem, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Et donc, où est-ce qu'il est mis, ces veaux d'or, vous avez bien compris, hein. Il y en a un qui est mis à Dan, qui était un peu plus loin, et l'autre qui met à Bethel. Et donc on voit cette histoire de Bethel qui se dégrade au fur et à mesure, finalement, de l'histoire, avec réellement Dieu qui apparaît, qui parle, et à la fin on se retrouve avec un veau d'or qui remplace Dieu. Alors, on ne sait pas trop dans quelle optique exacte il l'a fait Jéroboam, ça c'est pas écrit. On ne sait pas, peut-être qu'il s'est dit, ben, on va faciliter les choses aux gens, en fait. Plutôt que d'aller à Jérusalem de l'autre côté, on va faire un veau d'or. Et il leur dit bien, hein, voici Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Donc peut-être qu'ils disaient, les gens, ils savent bien que c'est qu'une représentation, d'accord ? C'est pas un mal, en fait. On sait très bien que c'est l'Israël, le Dieu d'Israël qui est derrière. C'est juste qu'on a mis une forme différente parce que, voilà, c'était plus pratique. Bon. Sauf que ce n'était pas une très très bonne idée. Hein, Jéroboam, il aurait dû savoir que le veau d'or, ça a un écho historique qui fait mal pour le peuple d'Israël. Hein. Vous savez comme moi, dans le désert, Moïse va être sur la montagne. Alors là aussi, hein, il y a un contraste qui est fort. Moïse, il reçoit la parole de l'Éternel sur la montagne. Il reçoit les lois de la main de l'Éternel, c'est écrit. Et pendant ce temps-là, le peuple, il dit, mais il est parti où? Ils ont eu peur. Et ils ont dit à Aaron, fais-nous un dieu. Et à Aaron, il leur dit la même chose. Hein. Voici Israël, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte. Donc, est-ce que Jéroboam l'a fait consciemment? On a envie de dire oui, parce que voilà, il ne peut pas ne pas savoir ça de l'histoire. Ou alors, il est très ignorant et on se demande ce qu'il fait là. Alors, il fait d'autres bonnes choses, Jéroboam. Il y avait une espèce de monopole à l'époque. Vous savez, le monopole, on n'aime pas, hein, maintenant. On a tendance à vouloir un peu de concurrence, ça baisse les prix vers le bas, c'est plus pratique, ça donne du choix aux consommateurs. C'est la même chose avec ça. Il s'est dit, en fait, il y a les Lévites qui ont le monopole du temple, avec les sacrificateurs qui sont aussi issus de la famille des Lévites. C'est pas pratique du tout. Il faut aller à Jérusalem en plus à chaque fois. Et donc, bah, il a cassé le monopole. Il s'est dit, maintenant, tout le monde pourra être sacrificateur. Celui qui le voudra, il le sera. C'est vachement bien. C'est vachement bien parce que du coup, au lieu d'avoir des gens qui sont forcés parce que c'est de famille, eh bah, ils y vont volontairement. Et donc, on n'a que des sacrificateurs qui sont volontaires là-dedans. Très très bonne idée. Donc il a libéralisé la profession et n'importe qui pouvait devenir sacrificateur. Ça c'est ce qu'on voit dans 1 roi, chapitre 12, verset 31, et donc c'est ce qui précédait tout juste le verset sur lequel je veux parler à la fin. Jéroboam fit une maison de haut lieu et il créa des sacrificateurs pris parmi tout le peuple et n'appartenant point aux fils de Lévi. Il établit une fête au huitième mois, le 15e jour du mois, comme la fête qui se célébrait en Juda. Et il offrit des sacrifices sur l'autel. Voici ce qu'il fit à Bethel, afin que l'on sacrifiât au veau qu'il avait fait. Il plaça à Bethel les prêtres des hauts lieux qu'il avait élevés. Et il monta sur l'autel qu'il avait fait à Bethel. Le 15e jour du 8e mois, moi qu'il avait choisi de son gré. Il fit une fête pour les enfants d'Israël, et il monta sur l'autel pour brûler des parfums. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à 1 Roi 13, verset 1, qui dit « Un homme de Dieu vint de Juda à Bethel pendant que Jéroboam était à l'autel. » Alors, c'est quoi le problème dans tout ça? Normalement, tel que je vous l'ai amené, vous allez penser à peu près comme moi, je pense, hein, c'est que Jéroboam, il n'a pas fait du tout la volonté de Dieu. Il a fait ce que lui, on a lu tout à l'heure, hein, il a mis une date, une nouvelle fête, comme ce qui se faisait à Jérusalem, hein, comme ce qui se faisait en Juda, mais il l'a mis de son gré, il l'a choisi lui-même, il a fait ce qu'il a voulu. Il a nommé les sacrificateurs lui-même aussi. Il a fait les veaux d'or, il les a placés où lui le voulait. Donc vous voyez qu'il était loin de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, elle était claire. Alors je vais repasser encore un peu de temps pour l'expliquer, mais voilà, je veux que ça soit bien clair dans nos têtes. Oui, ça je vous l'ai lu. Hein. Il y avait des règles qui étaient posées par Dieu, en fait, dans tout ça. C'est pour ça que je dis que Jéroboam, il n'en a fait qu'à sa tête, qu'il a fait que sa volonté, parce qu'il y avait des règles qui étaient très très claires. Alors, on les connaît, c'est juste qu'on n'a pas toujours les versets qui viennent appuyer ça. Donc, je vais juste citer quelques versets, j'espère que j'en ai pas mis trop, mais normalement, on a le temps de les voir. Donc, Dieu avait dit que son temple, il serait à Jérusalem, et pas ailleurs. Alors, il y a eu une période avant le temple, effectivement, où il y avait des sacrifices qui étaient faits un peu ailleurs. On a parlé de Samuel tout à l'heure, il venait faire un sacrifice tous les ans à Silo. Et donc, voilà, il y a des choses qui étaient là, mais à un moment donné, Dieu il a dit, voilà, ma maison, ce sera à Jérusalem. Il a dit ça à David, il a dit ça à Salomon. Donc, la règle, c'était Jérusalem et plus ailleurs. Et on doit arrêter d'élever des autels sous... Alors, dans la formulation biblique, c'est sur tout haut lieu, sous tout arbre vert, sur toute colline. Voilà, ça c'était un truc un peu animiste finalement, hein, quelque part, de bah là il y a une montagne, il y a un esprit qui est dans la montagne, et là il y a un arbre un peu particulier, hop, et on y collait des autels à tout bout de champ. Et donc Dieu ne voulait plus de tout ça, il voulait cadrer les choses et qu'on s'adresse qu'à lui uniquement. Donc en 2 Rois 21 verset 7, ça parle de... Je ne sais plus quel roi, je crois que c'est Manassé, mais je ne suis pas sûr. Après, peu importe, c'est l'idée qui est intéressante. Hein. Il mit l'idole d'Astarté qu'il avait faite dans la maison de laquelle l'Éternel avait dit à David et à Salomon son fils, « C'est dans cette maison, c'est dans Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël que je veux à toujours placer mon nom. » Donc la parole a été claire, et il y a d'autres versets après où on voit que Dieu dit ces choses-là à David et il les dit à Salomon. Et pour plusieurs rois, plusieurs mauvais rois en fait, hein, ils ont fait des idoles comme ça qu'ils ont mis dans la maison de l'Éternel. Et le passage, à chaque fois, il répète ça. Il dit, ils ont mis ça dans la maison où j'avais dit que mon nom allait résider. Donc c'est vraiment quelque chose de fort pour Dieu. Ce n'est pas juste une lubie, quelque chose. Voilà. Dieu avait dit, c'est comme ça et je le décide comme ça. C'est pour ça que Jéroboam, il désobéit de manière flagrante, en fait. Ah oui, d'accord. 2 Chroniques 6, versets 4 à 6. Je ne sais plus non plus qui a dit ça, mais « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a parlé de sa bouche à David, mon père, qui a accompli par sa puissance ce qu'il avait déclaré en disant, « Depuis le jour où j'ai fait sortir mon peuple du pays d'Égypte, je n'ai point choisi de ville parmi toutes les tribus d'Israël pour qu'il y fût bâti une maison où résida mon nom. Je n'ai point choisi d'homme pour qu'il fût chef de mon peuple d'Israël. Mais j'ai choisi Jérusalem pour que mon nom y résida. » J'ai choisi David pour qu'il régnât sur mon peuple d'Israël. Alors, je crois que c'est Roboam qui dit ça d'ailleurs. Hein. Il y a eu des éclairs de lucidité par moment. Donc, vous voyez que ça insiste juste sur Jérusalem, qui est l'endroit où Dieu avait dit qu'il résiderait. Et ça insiste aussi, c'est pour ça que j'ai cité, sur la famille de David pour qu'elle règne. Alors, le temple était à Jérusalem. C'est Salomon qui dit ça? D'accord. 2 Chroniques 6. Ok, merci. Donc Dieu avait dit son temple serait à Jérusalem et il avait dit que ceux qui étaient à son service, c'était la famille de Lévi, les Lévites. Ça, on le lit dans Deutéronome 10, versets 8 à 9. En ce temps-là, l'Éternel sépara la tribu de Lévi, lui ordonna de porter l'arche de l'alliance de l'Éternel, de se tenir devant l'Éternel pour le servir et de bénir le peuple en son nom, ce qu'elle a fait jusqu'à ce jour. C'est pourquoi Lévi n'a ni part ni héritage avec ses frères. L'Éternel est son héritage, comme l'Éternel, ton Dieu, le lui a dit. Et en nombre 3, voici les noms des fils d'Aaron, Nadab, le premier, Abihu, Éléazar et Itamar. Ce sont là les noms des fils d'Aaron qui reçurent l'onction comme sacrificateurs et qui furent consacrés pour l'exercice du sacerdoce. Alors ça, c'est l'idée que parmi les Lévites, il y avait une famille qui était la famille d'Aaron qui devait faire office de sacrificateur et personne d'autre. D'accord ? Quand on dit personne d'autre, il y a d'autres exemples de gens qui ont voulu devenir sacrificateurs et pour qui ça ne s'est pas bien passé. On revient encore une fois dans le désert, hein. Il y a toujours des parallèles avec ce moment-là. Dans le désert, en nombre 16, alors je n'ai pas mis tout le chapitre, hein, sinon ça va faire beaucoup, mais on voit Corée, Dathan et Abiram qui se sont soulevés avec 250 personnes. Alors Corée, Dathan et Abiram sont des Lévites. C'est ça qui est terrible. Ce n'est pas juste une autre tribu qui serait jalouse. C'est des Lévites et ils se sont soulevés contre Moïse en disant « Oui, il n'y a pas de raison que ça soit toi et Aaron qui soyez sacrificateurs. Nous aussi, on est saints. Nous aussi, on a été choisis par l'Éternel. Nous aussi, on peut offrir des sacrifices. » Moïse, il leur répond en nombre 16, versets 8 à 11. Moïse dit à Corée « Écoutez donc, enfants de Lévi. Est-ce trop peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël en vous faisant approcher de lui afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'Éternel et que vous présentiez devant l'assemblée pour la servir? Il vous a fait approcher de lui, toi et tous tes frères, les enfants de Lévi, et vous voulez encore le sacerdoce? C'est à cause de cela que toi et toute ta troupe vous vous assemblez contre l'Éternel. Car qui est Aaron pour que vous murmuriez contre lui? » Ce qu'on voit aussi dans ce passage-là, c'est que ce n'est pas juste une révolte, c'est ce que dit Moïse, hein, contre Aaron ou contre Moïse ou les deux. C'est une révolte contre l'Éternel qui a choisi la famille d'Aaron comme sacrificateur. Et donc quand Corée, Dathan et Abiram et les 250 personnes, ils se révoltent, c'est directement contre l'Éternel. Quand Jéroboam, il nomme des sacrificateurs qui ne sont pas de la famille choisie par l'Éternel, ils se révoltent contre l'Éternel. Donc qu'est-ce qui va se passer avec ça? Ça va mal finir, hein. Parce que Moïse, il va leur dire, écoutez, prenez un flambeau avec du parfum, ramenez-le demain, et Aaron, il fera pareil, et on verra qui Dieu va choisir. Et en fait, le feu va se propager et brûler les 250 personnes, et tous les révoltés, en fait, vont mourir par le feu. Juste après ça, qu'est-ce qui se passe? Dieu confirme le choix de la famille des Lévites. Il dit maintenant, toutes les tribus, venez, puisqu'il y a de la contestation, on va régler ça, quelque part. Il dit, vous ramenez tous une verge, une par tribu. On va mettre ça dans l'arche, et on verra ce qu'il adviendra. Et le lendemain, quand il se réveille, il y a la verge qui représente la famille de Lévi, la verge d'Aaron, qui a fleuri, qui est le signe que c'est bien Dieu qui a choisi cette tribu-là. D'accord ? Donc il y avait des choix qui étaient très très clairs. Un choix qui est moins clair, c'est pourquoi j'ai mis ce verset-là. Alors ça, c'est Deutéronome 12, versets 11 à 14. Alors il y aura un lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira pour y faire résider son nom. En fait, ce verset-là, il regroupe presque les trois idées. C'est que Dieu voulait mettre son nom à Jérusalem, voulait que ça soit les Lévites qui le servent et que les sacrificateurs n'étaient pas n'importe qui. Donc c'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne. Vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices et les offrandes choisies que vous ferez à l'Éternel pour accomplir vos vœux. C'est là que vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, vous, vos fils et vos filles, vos serviteurs et vos servantes, et le Lévite qui sera dans vos portes, car il n'a ni part ni héritage avec vous. Ça fait référence au choix de l'Éternel. Garde-toi d'offrir des holocaustes dans tous les lieux que tu verras. Ouais, c'est encore là. Mais tu offriras tes holocaustes au lieu que l'Éternel choisira, dans l'une de tes tribus, et c'est là que tu feras tout ce que je t'ordonne. Donc l'ordre de Dieu, il était clair. Ça, c'est donné par Moïse, donc même avant la construction du temple, en fait. Hein. Il dit, il y aura un lieu qui sera choisi par Dieu, il y a une manière de faire qui est choisie par Dieu, et tu feras tout de cette manière-là. Voilà. Donc j'étais un petit peu lourdingue sur cette partie-là, je suis désolé, mais voilà. Là, on a fini l'introduction, comme dirait Daniel Scherrer. Alors, pourquoi tout ça? Parce que si vous avez suivi depuis maintenant, Il y a une substitution sur absolument toute la ligne, en fait. Et c'est ça qui est marquant dans ce passage. Parce que, on va reprendre tout ce que j'ai dit depuis le début, parce que je n'ai pas encore été assez long. Vous verrez que la substitution, elle se fait sur absolument tout quand on regarde cette histoire. Et c'est ça qui est frappant. Donc, on a vu d'abord qui était Jéroboam. On a vu que c'était un serviteur qui, à cause de la désobéissance du peuple, hein, finalement, a pris la place de la famille de David. Et Pascal, il nous a dit qu'il y avait un autre serviteur qui a tenté de prendre la place du Dieu qui était tout en haut, qui s'appelle Satan. Vous voyez, il y a une substitution qui va au-delà de ce qu'a fait Jéroboam, en fait. Il y a une substitution qui se fait dans les cœurs. Et voilà, on appelle ce serviteur-là, il a tenté de prendre le royaume, et il y en a une partie, finalement, quelque part. Quand on regarde avec nos yeux terrestres, on va dire, il a une partie du royaume, il a une partie de la population, et il n'y a que deux tribus qui lui restent fidèles, il n'y a qu'une partie qui lui reste fidèle à Dieu. On l'appelle le prince de ce monde de ténèbres. Vous voyez, il a pris une partie du royaume, quelque part, même la Bible utilise des mots comme voilà, une idée de royauté. En tout cas, voilà, il n'est pas appelé le roi non plus, hein, parce qu'il n'y en a qu'un seul. Mais il cause bien des problèmes. Et je vous dis, comme il y en a une partie qui sont restées fidèles au fils de David, bah, il y en a une partie de nos jours qui reste fidèle au fils de David, mais pas le même. D'accord ? Il y a toute une idée, en fait, de quelque chose de spirituel, en fait, dans cette histoire avec Jéroboam, qui est qu'il y a une substitution et qu'on la rencontre encore à notre époque, en fait. Et le roi qui devrait être dans tous les cœurs, eh ben, il n'est pas dans tous les cœurs, il n'est que dans une partie de la population. Alors, il y a une promesse qui a été faite à David. C'est pour ça que je parle d'un autre fils de David. C'est en 2 Samuel 7, versets 12 à 16. « Quand tes jours seront accomplis, que tu seras couché avec tes pères. » Donc, je redonne juste l'info, c'est que c'est Nathan qui dit ça à David. D'accord ? David, il a prié Dieu, pour je ne sais plus quelle raison d'ailleurs, mais Nathan lui répond et lui dit « Quand tes jours seront accomplis, que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtirai avec la verge des hommes, et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. » La promesse a été magnifique à David. Hein. Il n'a pas saisi cette portée-là, je pense. Hein. Il a vu le royaume qui allait rester, le royaume physique. Il a dû comprendre que ça disait plus, parce qu'il a eu tellement de prophéties, tellement de messages qui lui ont été adressés. Mais nous, quand on voit ça, on sait ce que ça veut dire. Ça parle de Jésus, d'accord ? Qui affermira le règne de Dieu pour toujours. Et ce verset, « S'il fait le mal, je le châtirai avec la verge. » Il n'a pas fait le mal. Mais il était châtié par les hommes, en fait. Il a subi le jugement à notre place. Donc ça, c'est une prophétie qui a été donnée à David. Alors ma question, elle est toute bête. C'est à qui est-ce qu'on veut se soumettre ? À quel roi ? Parce qu'en fait, toute la suite, elle découle de ça. Tout le reste, en fait, tout ce qu'on a vu sur ces histoires à Jérusalem, avec les Lévites, par les sacrificateurs qui sont la famille d'Aaron, ça, c'est des conséquences, simplement. C'est une conséquence d'un changement de roi. Alors, poser comme ça, me dire le choix il est évident, hein, moi c'est Dieu que je veux servir, voilà, c'est facile à répondre. Cette question-là a déjà été posée au peuple de Dieu. Alors, le peuple de Dieu, il y a beaucoup plus longtemps que ça, hein, c'est pas de nos jours. Elle est posée au peuple de Dieu par Josué. Josué au chapitre 24 et à partir du verset 14. Alors, je vais lire longtemps aussi. Mais voilà, tout ce que je lis dans la Bible, c'est pas moi qui le raconte, comme ça on est sûr de pas faire de bêtises. Donc Josué, il dit au peuple, maintenant, craignez l'Éternel, servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Ah, ça aussi on l'a entendu tout à l'heure, hein. Faites disparaître les autres dieux. Si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le peuple répondit, Loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux, car l'Éternel est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, nous et nos pères. C'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges, qui a fait et qui nous a... Oh, j'ai perdu ma ligne. C'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, nous et nos pères. C'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Il a chassé devant nous tous les peuples et les Amoréens qui habitaient ce pays. Nous aussi, nous servirons l'Éternel, car il est notre Dieu. Là aussi, la réponse a été facile, hein, quelque part. Oui, on va servir l'Éternel, notre Dieu. Et il le répète après. Josué, il dit au peuple, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal et il vous consumera après vous avoir fait du bien. Le peuple dit à Josué, non, car nous servirons l'Éternel. Josué dit au peuple, vous êtes témoin contre vous-même que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. Et ils répondirent, nous en sommes témoins. Et cette dernière phrase encore, ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Même quand deux fois ils disent, nous servirons l'Éternel, on a l'impression d'un enthousiasme, non, on va le servir. Mais ils ont encore des dieux étrangers dans leur cœur. Ils ont encore des dieux étrangers. Et on est, j'aime bien le rappeler, hein, mais on est en train de parler du peuple de Dieu là. Ce n'est pas un peuple païen, hein. Ils s'adressent au peuple de Dieu et eux-mêmes ils le reconnaissent. Ils disent c'est l'Éternel qui est notre Dieu, c'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, c'est lui qui nous a délivrés, c'est lui qui a opéré tous ses prodiges, c'est lui qui nous a gardés pendant toute la route qu'on a suivie. Il a fait tout ça pour nous, on le reconnaît. Mais ils avaient encore des dieux étrangers dans leur vie. C'est terrible, hein, comment on peut vivre des choses avec le Seigneur et pour autant avoir encore une partie qui ne lui appartient pas quelque part. Alors, la réponse de Josué, elle est forte. Hein. Alors, je ne l'ai peut-être pas souligné dans celui-là. Diapo 24. Voilà, je me suis reperdu. Alors, moi et mes onze. Josué, voilà, tout en haut. Vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint. C'est un Dieu jaloux. Et est-ce qu'on n'est pas comme ça des fois en fait? Est-ce qu'on a la force de servir l'Éternel? Je pense que de nous-mêmes, on l'a pas cette force en fait. Pensez à Pierre. Seigneur, j'irai avec toi jusqu'au bout. Oui, mais il l'a renié juste derrière. Et on n'est pas mieux que Pierre. Hein. On aurait tendance à se moquer de Pierre. Oui, mais nous maintenant, on a le Saint-Esprit, on connaît, c'est différent. C'est pas différent pour autant. Pourquoi est-ce qu'il renie Pierre? Parce qu'il a peur. Il a peur de ce que les gardiens vont dire, de ce que les soldats romains vont dire, de ce qui va se passer pour lui, de ce qu'il pourrait risquer, en fait. Il n'a pas la force de servir l'Éternel parce que ses exigences sont trop dures. Alors, c'est un premier encouragement que je peux laisser ce matin. Je ne veux pas être méchant tout du long. Hein. C'est que on n'a pas la force de le servir nous-mêmes. Il faut le reconnaître. C'est le premier point. Voilà. Ça, c'est la base de tout. Et je crois que la plus belle chose qu'on puisse faire, c'est d'aller devant lui et dire, Seigneur, même la volonté, je ne l'ai pas complètement. Et lui, il va le faire, en fait. Quand Josué dit, vous n'avez pas la force de le faire parce que ses exigences sont trop dures. On entend le sermon sur la montagne aussi. C'est impossible pour nous. On est dans l'incapacité de faire tout ça. Et il faut en arriver à ce constat-là et venir à Dieu. Parce que Dieu, lui, il nous donne la force de le faire. Alors, on le lit ça en Philippiens 2, c'est un verset très connu, hein, Philippiens 2, verset 13. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est Dieu qui crée même la bonne volonté dans nos cœurs. Et donc, si on a l'humilité de venir à lui, dire, Seigneur, c'est vrai que partiellement, je veux te servir, sinon je ne viendrai pas devant toi, mais il y a encore des choses qui ne sont pas à 100%, et bien, il le fera le reste, en fait. Et c'est ça le premier point qui est important. Donc, qu'est-ce qui était dans le cœur du peuple? C'est qu'il y avait d'autres dieux, donc il y avait un autre roi que le roi qui devait avoir. C'est-à-dire, tout du long, en fait, on voit la substitution dans le cœur du peuple de Dieu. Donc, au lieu d'avoir Dieu pour roi directement, ils ont demandé un autre roi. Ils avaient d'autres idoles. Et il y a toujours eu quelque chose qui a pris la place de Dieu, en fait. La grande substitution de, le retour, le changement de culte. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, en fait, hein, c'est que ça, le changement du culte, c'est juste une conséquence du changement de roi. Et là, on voit que Jéroboam a pris la place du peuple d'Israël, et en conséquence de ça, il met en place tout un nouveau culte, en fait. Il met en place un culte qui soit plus à Jérusalem, plus fait par les Lévites, et plus avec des sacrificateurs qui sont les fils d'Aaron. Mais c'est uniquement une conséquence. C'est pour ça que ce que j'ai dit juste avant, c'était ça le plus important. Vous pourriez presque partir, mais ne faites pas. Le plus important, c'était quel est notre roi. Et vous voyez qu'on peut, on peut dire facilement, ouais, mon roi, c'est l'Éternel. Ben, ouais, c'est pas si facile à dire que ça. C'est pas que c'est difficile à dire, mais on peut le dire avec légèreté. Et il faut que notre cœur, il soit 100% à lui. Comme, comme ce qui s'est passé entre Josué et le peuple à ce moment-là. Alors, on a vu Bethel tout à l'heure. On a vu que c'était appelé comme ça parce que Dieu s'y est révélé à Jacob, c'était la maison de Dieu. Et je crois sincèrement qu'au départ, c'était la maison de Dieu. Dieu avait dit, voilà, je visite Jacob, il a été à cet endroit-là. Sauf qu'après, ça a glissé. Et on en arrive à la fin à quoi? Bah, à Bethel qui héberge un veau d'or et qui, voilà, qui remplace Dieu. Dans les propos de Jéroboam, c'est très clair. Hein, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Ça remplace Dieu, c'est, voilà, c'est encore une substitution dans notre cœur, en fait. Et c'est terrible de voir une ville qui a pu connaître ça, et ça a probablement glissé un petit peu à la fois, en fait. Hein. Il y a eu quelque chose de sincère au moment où Jacob était là, il y a peut-être eu quelque chose de sincère un peu à la suite, et après, bah, on en a fait un lieu de pèlerinage, on en fait un lieu où on offrait des sacrifices, et puis ça a glissé jusqu'à arriver à mettre un veau d'or à cette place-là. Et je crois que ça, le danger, c'est ça dans nos cœurs. C'est pour ça que vous, quand on pose la question, c'est qui ton roi? Bah ouais, c'est l'Éternel. Oui, poser comme ça, c'est évident. Mais la substitution, elle ne se fait pas d'un seul coup, en fait. Même si là, au niveau des rois d'Israël, ça a été brutal. Mais dans nos cœurs, je crois que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Le malin, il est malin, c'est son nom. Et donc, il va changer les choses progressivement. Il va changer par ce qui était institué par Dieu. Et il va mettre ce que lui, il met, autre chose, peu importe, tant que ce n'est pas ce qui vient de Dieu, en fait. Et il le fait progressivement, de manière à ce qu'on ne le voit pas. Et donc c'était aussi l'encouragement que je voulais laisser ce matin, c'était de régulièrement s'examiner nous-mêmes et de regarder, est-ce que ce que je fais, c'est bien ce que Dieu m'a demandé de faire? Est-ce que je le fais à la manière que lui, il a décidé? Parce que Jéroboam, quelque part, on va dire, il offre encore des sacrifices à Dieu, il a créé plein de sacrificateurs pour ça, enfin voilà, vu de loin, ça pouvait ressembler encore à quelque chose. Mais ce n'était pas selon la manière que Dieu avait dite. Et donc c'était une désobéissance, c'était une rébellion. On en arrive finalement au couronnement de l'idolâtrie. Quand on voit que ces gens, ils adoraient le veau d'or en disant « Voici, c'est Israël, c'est notre Dieu, c'est lui qui nous a sortis du pays d'Égypte. » On est arrivé au summum de l'idolâtrie, parce que tant que c'est quelque chose d'autre qui n'a pas le même nom que Dieu, mais quand ça prend le nom de Dieu, que ça prend sa place, c'est ça l'idolâtrie en fait. Et donc est-ce qu'il n'y a pas des chrétiens à notre époque qui devraient être des maisons de Dieu, des Bethel, et qui sont devenus des maisons d'idolâtrie, des maisons où on n'honore pas Dieu alors qu'on croit le faire. Le culte, il ne devait pas se faire à Bethel, mais à Jérusalem. Alors, on a passé un certain temps, hein, et donc on a vu que Jéroboam, il a tout changé finalement, sur toute la ligne. Le roi est changé, c'est plus la famille de Juda, le lieu est changé, la manière de faire, voilà, tout a été transformé progressivement pour désobéir à Dieu. C'était juste une désobéissance, comme Coré, Dathan et Abiram, il s'est dit, tiens, moi, c'est moi-même qui vais même faire les sacrifices. Il a pris un rôle qui n'était pas le sien. Comme chez les hommes et chez les femmes, il y a des rôles différents aussi, et que chacun, il doit faire son rôle. Comme ça, on aura fait le lien avec encore une autre personne. On ne peut pas honorer Dieu en lui désobéissant. C'est impossible. Et donc des fois, on peut croire, lui offrir des sacrifices, faire des choses, mais si ce n'est pas fait de la manière dont il l'a décidé, et qu'on le sait, alors on lui désobéit, on ne l'honore pas. Et en écrivant ça, je pensais à certaines églises maintenant qui sont pas ouvertement contre l'avortement. J'ose pas dire pour, je sais pas comment on peut dire pour l'avortement, mais bon, qui tolèrent le divorce, qui tolèrent l'homosexualité, qui tolèrent tout un tas d'autres péchés, qui tolèrent l'appât de l'argent, qui tolèrent, on peut en citer comme ça des dizaines et des dizaines. Est-ce qu'on n'est pas là dans un moment d'idolâtrie finalement? On a tout remplacé, ce que Dieu avait donné, et on l'a remplacé par ce que nous, on a envie de faire finalement. Je pense que quand on en arrive là dans les églises, on a substitué la parole de Dieu par ce que nous, on a envie de faire. Et pourquoi on le fait? Enfin, pas ici, on essaye de ne pas le faire. Pourquoi ces choses, elles arrivent? Parce que les exigences de Dieu, elles sont trop dures. Vous n'aurez pas la force de le servir, il disait Josué. Et je pense que quand on est à ce constat, si on se dit, bah, j'ai pas la force de le faire, c'est parce qu'on est encore dans la religion, dans la religiosité. Et ça aussi, ça a été dit tout à l'heure. Et tant qu'on est là-dedans, les exigences de Dieu, elles sont trop dures. Tant que je suis une religion, que je suis des rites, des habitudes, des méthodes, je ne sais pas trop comment on peut le dire, c'est trop dur en fait, c'est impossible. Et donc on va avoir tendance à adapter les choses et à les substituer pour que ça soit quelque chose de plus tolérable pour nous. Mais je crois qu'on fait tout ça en fait, hein, à un certain niveau. Sinon, on serait beaucoup plus nombreux à le servir, et on irait beaucoup plus loin, même quand on le sert, on irait beaucoup plus loin que ça. Et c'est la réflexion qu'on se fait avec Maï depuis un moment. Maintenant, on se dit, mais à quel point est-ce qu'on connaît bien le Seigneur? Je crois que si on le connaissait plus, on irait beaucoup plus loin avec lui. Et donc, il y a une connaissance qui n'est pas encore suffisante de lui. Il nous faut plus que ça. Et ça veut dire qu'il reste encore une part de, voilà, presque de religion, de religiosité, en fait. Et il faut que ça soit remplacé. Cette idolâtrie, cette manière un peu de culte païen de faire les choses, ça soit remplacé par ce que Dieu veut et une obéissance en fait. Il y en a un autre qui a désobéi à Dieu en offrant lui-même les sacrifices. Ça aussi, normalement, on le connaît bien, hein. Dans 1 Samuel 15, verset 22, c'est Saül, effectivement. Samuel, il avait dit, voilà, tu vas aller faire la guerre, mais surtout, tu m'attends. J'offrirai le sacrifice à l'Éternel, et après seulement tu pourras y aller. Et donc Saül y va, je crois que c'est sur le mont Gilgal, et il attend, puis comme Samuel il tarde, qu'est-ce qu'il fait? Il a peur, on y revient hein, encore une fois, il a peur, et plus ou moins il se fait violence, en tout cas c'est ce qu'il dira à Samuel, il offre lui-même le sacrifice parce qu'il voit que les gens sont en train de s'éparpiller et que ça va mal se passer, il offre lui-même le sacrifice, et au moment où il est en train d'offrir le sacrifice, eh bien, il y a Samuel qui arrive. Un homme de Dieu vint à Gilgal avec la parole de l'Éternel et lui dit, ben, parce que tu as désobéi, je te retire la royauté. C'est terminé maintenant. Je vais la donner à un autre. Qu'est-ce qu'il dit Samuel à Saül? 1 Samuel 15, verset 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Alors j'ai souligné les deux parce que les deux sont intéressants, enfin tout est intéressant, mais voilà, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Quand on remet ça dans le contexte avec Jéroboam, il a offert des sacrifices, ce n'était pas ça le souci, mais Dieu lui demandait d'obéir. Et presque, j'allais dire l'inverse, ou voilà la négative aussi, hein, la désobéissance est aussi coupable que la divination. Ça ne nous viendrait pas à l'idée hein, d'aller voir des devins, d'aller voir des choses qui sont obscures comme ça, et pourtant la désobéissance est aussi coupable que ça. Ça aussi, c'est important pour nous. Ça met vraiment l'accent sur une obéissance sans faille à Dieu. Et on revient à ce que dit Josué, qui est que de nos propres forces, c'est pas possible. On a besoin du soutien de l'Éternel pour faire ça. Alors, conclusion temporaire. Parce que vous doutez bien que je ne peux pas m'arrêter là. On va y revenir plus tard, avec un côté peut-être un peu plus pratique. Voilà, ça c'était peut-être un peu théorique, mais il y a trop de choses à dire pour le faire en une seule fois. On est arrivé à moins le quart, c'était que l'introduction. Vous doutez qu'il y a aussi une autre substitution dont je ne peux pas me passer de parler, qui a eu lieu et qui est la bonne substitution en fait, hein. Il y en a un qui a pris notre place sur la croix pour nous. Et ça, c'est une bonne substitution. Donc je ne peux pas parler de substitution sans parler de ça. mais je ne voulais pas le faire en 5 minutes à la fin, donc voilà, on y reviendra une autre fois. En attendant, on peut déjà méditer sur ces choses-là. Ça ne fait pas beaucoup de questions, mais ça fait déjà de quoi bien, bien tourner dans nos têtes. Hein. Est-ce qu'on est bien soumis au bon roi? Ou est-ce que, finalement, discrètement, on l'a substitué et qu'on a mis quelqu'un d'autre à sa place? Ce quelqu'un d'autre, si vous écoutez Pascal parler, souvent, c'est moi. C'est moi qui prends la place. Et c'est moi qui, voilà, la parole, elle dit ça, mais bon, vous savez, à cette époque-là, c'était pas pareil, et donc hop, on adapte, et puis on glisse, et on se retrouve à se trouver des excuses, à reformuler un peu, à adapter l'interprétation, et on fait plus comme c'est écrit. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas d'interprétation, le texte est écrit à une autre époque, dans une autre culture, faut faire attention, mais on se sert de ça pour adapter les choses et pour les rendre plus faciles à supporter. Et donc, du coup, on est, nous, devenus celui qui met les règles. C'est plus Dieu qui met les règles. Donc si c'est plus Dieu qui met les règles dans ma vie, c'est plus Dieu qui est le roi en fait. Est-ce que ma manière de servir, elle est selon sa volonté? Ou est-ce que je l'ai adaptée pour que ce soit un peu plus supportable? Est-ce que ma manière de servir, elle traduit une obéissance sans faille? Tu sais, c'est des questions qu'on se pose aussi en venant ici, hein, je vous assure. À quel point est-ce que je connais Dieu? Je pense qu'on revient toujours à ça en fait. Parce que si on le connaît, le reste, ça se règle. Ça se règle et Dieu fait le travail dans nos vies. Mais on revient à ça systématiquement. On verra la fois prochaine qu'il y a toutes sortes de raisons de dévier. L'une d'elles, on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est Josué qui dit au peuple, vous n'aurez pas la force de le servir, car c'est un Dieu saint et jaloux. C'est-à-dire qu'humainement, c'est trop élevé pour nous. Et ça veut dire que d'un point de vue religieux, c'est pénible. C'est pénible de faire tout ce qui est écrit dans la Bible. C'est pénible si on le fait par simple méthodologie, par simple religion. C'est pas pénible si on le fait par amour pour Dieu. Et ça, c'est une vue complètement différente des choses. Et Dieu, il dit, mon fardeau est doux et léger. C'est-à-dire qu'il y a un fardeau, mais qu'il est léger. Donc il y a quelque chose de bizarre hein, dans ce que nous demande Dieu. Ça pourrait être vu comme difficile, mais ça ne l'est pas quand on l'aime, en fait. Je crois qu'on a dit tout à l'heure, hein, on a besoin de sa force et on a besoin de son amour en fait. L'amour pour lui déjà. Et si notre amour pour lui était suffisamment grand, eh ben, ça aplanirait bien des choses dans nos vies en fait. On pourrait être tenté de dire à Dieu, comme Saül, hein, mais j'ai fait des sacrifices pour toi Seigneur. J'ai fait ci, j'ai fait ça, tu vois le temps que ça me demande de faire ça, je vais voir un tel, ou voilà, on peut imaginer toutes sortes de choses qu'on fait, même au plus simple service dans l'église, hein, on pourrait dire, mais ça, Seigneur, je fais quand même ça pour toi, tu vois. Et on se trompe quand on fait ça. Parce que Dieu, il ne demande pas des sacrifices, on l'a vu tout à l'heure, il demande de l'obéissance. Maintenant, si c'est ce que Dieu nous a demandé et qu'on le fait, c'est très bien. C'est de l'obéissance et il faut continuer. C'est pas, je dis pas arrêtez de faire tout et puis attendez juste et puis obéissez. Je pense que si on s'arrête et qu'on fait ça, ben on n'obéit pas. Hein. Quelque part, Dieu il a du boulot pour tout le monde et il faut qu'on s'y mette. Mais voilà, Dieu il pourrait nous dire, t'as fait tout ça, mais est-ce que tu m'obéis réellement? Et donc je vais vous laisser avec cette dernière question. Tu fais tout ça, mais est-ce que tu m'obéis réellement? Je vais prier pour terminer. Seigneur, merci pour tous les points communs qu'il y a eu avec la présentation tout à l'heure et les exhortations. Seigneur, merci pour ces avertissements qui sont clairs pour nous et pour moi y compris. Seigneur, je ne veux pas paraître comme celui qui fait des leçons aux autres, mais comme le premier concerné par ce que je dis. Et Seigneur, donne-moi de faire attention dans ma vie à toute substitution qui pourrait avoir lieu, à tout remplacement des choses qui viennent de toi par autre chose. Seigneur, donne-moi et donne-nous à chacun de te mettre toi sur le trône et d'observer, d'obéir à ce que tu nous demandes, Seigneur. Seigneur, tu as tellement de choses à faire pour nous et nous sommes durs d'oreille, moi y compris. Seigneur, donne-nous la volonté, donne-nous le faire, parce que c'est toi qui le donnes selon ton bon plaisir. Et Seigneur, nous voulons venir devant toi et te réclamer ces choses, te réclamer même de la bonne volonté dans l'obéissance. Seigneur, donne-nous ton esprit, donne-nous ton amour. Merci parce que c'est ça qui nous permet de faire les choses que tu demandes avec, finalement, avec joie, avec plaisir. Seigneur, c'est un plaisir de te servir, de t'honorer et de t'obéir. Et Seigneur, que ça puisse être le cas pour chacun d'entre nous ce matin. Amen.